Bienvenue dans Movie Goer, l'émission 100% cinéphilie, votre mensuel d'actualité cinéma, un vendredi sur 4 à 19h et rediffusé le lundi à 13h sur Radio Campus Paris. Avec toute une fine équipe de chroniqueurs, on vous propose de décortiquer le cinéma et plus encore en le connectant avec les autres arts. Quelques recommandations pour votre agenda culturel et surtout une bonne dose de savoir pour cette 9e émission en plein cœur du Festival de Cannes. Au programme ce soir, on revient collectivement sur le Festival de Cannes qui a débuté ce mardi autour des différentes sélections entre autoristes confirmés, patrimoine sélection parallèle et nouvelles révélations. Esther accueille ce mois-ci Pierre Comarmont, distributeur chez Norte, et leur ligne éditoriale au film atypique, Patrick Chia, Payal Kapadiak, Night Island, sans oublier les premiers films de Verena Paravel et Lucien Castantayor, et bientôt Bouchera en salle le 3 juin qui sublime les relations queer et l'affiliation mère-fille dans une animation qui redessine New York. François avec Animotion revient sur les grandes attentes cinéma d'animation de Cannes, plein de surprises dans toutes les sélections du festival, ainsi que le conseil animation du mois Junk World, suite de Junkhead, qui se passe 1000 ans avant, toujours dans un monde rempli de cyborgs réalisé par Takahide Hori. Tandis que Alia nous fera son retour élogieux ou non, petit teaser quand même, hein, sur la saison 3 d'Euphoria qui crée la controverse autour de son réalisateur problématique, on peut le dire, hein, Sam Levinson. Elle reviendra sur tout ça et sur les costumes essentiels dans la série. Et je suis si content que notre carte blanche ce mois-ci de mois de mai soit, pour le coup, The Plague de Charlie Pollinger, un film présenté à Cannes, pour le coup, en mai 2025, autour d'un camp de water polo où un jeune garçon va développer les symptômes de la peste. On vous en dit pas plus, mais j'ai surtout très hâte d'avoir les retours des chroniqueurs et des chroniqueuses. Sachez qu'à la fin, vous saurez tout sur le ciné, mais d'abord, il est l'heure d'un petit débrief de Cannes et de vos attentes.
It's Channel 4 News at 6 o'clock.
Je ne suis pas Paul Fino, mais Dorian Périgua. Et donc, on va parler du Festival de Cannes, puisque donc, quand on enregistre l'émission, on n'est pas encore au Festival de Cannes, mais la sélection est tombée, bientôt la grille horaire. Et moi, je voulais revenir sur quelques films. Et évidemment, je vais me taire très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pour laisser la place aux chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission, puisque cette sélection, pour moi, est assez incroyable. Bon, tous les ans, on se le dit, mais c'est toujours assez marrant, puisqu'on voit les auteurs et les autrices évoluer. Donc, moi, je voudrais parler de Fatherland, parce que voilà, moi, je suis très content de retrouver Pavel Pavlidovski 7 ans après. On est toujours sur un voyage historique, on a Sandra Hüller, grande attente de La Bola Negra, des réalisateurs de Las Messias disponibles sur Arte. Il y a Glenn Close, il y a Penelope Cruz, ça se passe en Espagne, c'est un film queer. Marie Kreutzer, moi j'avais adoré Corsage, donc est-ce que ce film avec Léa Seydoux qui s'appelle Gentle Monster va me réconcilier avec elle? Je suis un peu curieux. Je ne vais pas vous parler de Coward de Lucas Donde parce que je n'ai absolument rien à dire sur Lucas Donde, à part vraiment juste je suis amoureux de cette personne. Et je suis amoureux aussi de James Gray, tout simplement parce qu'on revient tout simplement à Little Odessa. J'ai l'impression, donc un peu peur. Que vous dire d'un certain regard, à part qu'il y a Jordan Firstman, le pain de I Love LA, qui réalise un film, c'est du cinéma indépendant américain. Le pain, Alia, tu rigoles, mais le pain.
Mais non, mais le moi, pain, mais pain. T'as raison, toute la boulangerie, si tu
la
veux.
La boulangerie
même.
De I Love LA est là. Godrej, parce que juste Mémoire de fille, c'est mon Annie Ernaux préféré, donc j'ai extrêmement peur et extrêmement hâte. Du gore quand même, Sanguine de Marion Le Corollaire, il y a encore un autre crush, Stéphane Crépon, du body horror à minuit sur la croisette, c'est parti.
Ah bah c'est tout ce que tu veux, un petit cocktail et
un petit cocktail et Karine Viard.
Non, disons-le.
Le père Mandico qui est de retour sur le tapis. Moi très hâte de voir Bertrand Mandico sur le tapis rouge. Et puis Clarissa, parce qu'il y a Ayo Dibiri, donc j'ai pas besoin de dire autre chose, c'est un certain regard. Ou il y a Aliens, parce que c'est le film de la boîte, donc je vais absolument pas être neutre sur la question. Et puis juste pour me foutre de sa gueule, Le Vertige de Quentin Dupieux, ce film qui vraiment j'ai juste envie de chier sur ce film, mais peut-être de développer un argument un peu en mode oui, finalement c'était bien. Bon bref, je ferme ma gueule, je me tais et je laisse peut-être Alia commence parce que je te sens frétillante.
Ah ben la star est de retour finalement.
Bienvenue la star.
Eh bien merci. Bah déjà moi j'ai hâte des looks sur le tapis rouge quand même, on va le dire. Expert mode doit attendre son tapis rouge. Bah alors moi mes attentes, bah je vais être très corporate. Notre salut d'Emmanuel Marc qui revient avec son second film. On y voit Swan Arlo et Sandrine Blanqueux et je vous en dis pas plus car il y aura peut-être des petits spin-offs, des petites apparitions.
Okay.
Et en séance spéciale, Les Matins Merveilleux d'Avril Besson, son premier long métrage. J'ai tellement hâte de le voir et surtout de voir Raya Martini, ma star. Marie-toi avec moi en fait, je t'en supplie. Et je vais laisser la parole à Lisa.
Non mais alors surtout François et Esther.
Oui.
François et Esther, dites-moi tout.
Si tu veux, je commence. Moi, je fais mon original. J'ai trouvé dans la quinzaine un court-métrage de Saïd Amiche.
Oh,
j'ai voulu ne pas me renseigner sur ce qu'il allait faire.
Oh mais my God, she's so different.
Bien sûr. Mais il avait réalisé La mer au loin, où moi, vraiment, j'avais chialé comme une folle devant ce film. Et là, il revient avec À la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes. Comme je voulais être cette personne qui va voir les courts-métrages, j'ai choisi de me le mettre dans mes attentes. En compétition, moi, c'est L'inconnu d'Arthur Harari. C'est quand même un monsieur qui se réveille dans le corps de Léa Seydoux. Et genre, mon rêve, en fait. Donc j'ai un peu hâte de voir comment il a traité le sujet.
On n'a pas la même relation avec Léa Seydoux.
Mais c'est notre Beppo Baby préféré, attends.
Et après, non, hommage à Victor Le Pesant qui m'a fait la promo de L'Agradiva qui est à la semaine de la critique de Marine Atlan, où c'est des lycéens qui vont à Popéi et ça les rend fous de désir. Et globalement, bah, ça a l'air très bien. Ouais. Donc voilà, à peu
okay.
près.
François, pour clôturer.
Eh ben écoute, moi c'est le maître japonais qui revient en compétition, Hirokazu Koreeda, que j'adore, et dont je parlerai un petit peu d'ailleurs tout à l'heure, c'est un petit teasing. Mais j'ai très très hâte de son retour, et moi aussi je suis un peu corporate en vrai, donc Congo Boy, un certain regard, j'ai... Voilà, trop trop hâte.
Ouais, je le mentionne en même temps parce qu'on est corpo jusqu'au bout. Un certain regard qui est repris à l'Arlequin du 27 mai au 2 juin et La quinzaine qui est repris au Reflet Médicis du 10 au 16 juin, je crois. Merci beaucoup. Donc on l'a bien compris, hein, on est toujours sur des grosses attentes. Ça cristallise toujours beaucoup d'attentes. Donc évidemment, je vais évidemment donner ma palme d'or le 23 mai à Coward de Lucas Donde sans l'avoir vu. Animation. Sans transition, Animation et Queer font bon ménage en juin en salle avec Jim Quinn, on en parle au mois de juin, sélectionné à Cannes lui aussi, et le délicieux que j'ai adoré Bouchra, Dorian Barki et Meriem Benani. Norte Distribution le sort le 3 juin et moi j'ai trouvé ça génial. Pierre Comarmont, justement de Norte, l'invité d'Esther ce mois-ci.
Drama is life with the dull bits cut out.
Merci beaucoup à Pierre Cormamont de chez Norte qui est venu nous rencontrer ce soir-là. On voulait parler avec lui de Bouchra, mais aussi de Dryleaf et de Caniba qui va passer dans Toujours Plus Gore très prochainement, et plus globalement de son métier de distributeur et des choix de Norte qui sont toujours très audacieux et qui ont intéressé toute l'équipe. Donc merci Pierre de bien avoir voulu venir ce soir. Donc on voulait commencer par te poser des questions sur Bouchra, qui est un film d'animation que vous distribuez, qui sortira en salle le 3 juillet, c'est ça ?
Le 3 juin.
C'est pour la suite juillet. C'est un projet donc qui est super audacieux et sans en dire trop. Bouchra, c'est l'histoire d'une réalisatrice marocaine qui vit à New York. Elle est incarnée à l'écran par un coyote et on y parlera entre autres de coming out lesbien, de paysages marocains, de relations mère-fille. Ce qu'on voulait déjà te demander, c'était peut-être de raconter comment chez Norte, vous avez fait la rencontre de Meriem Benani et de Oriane Barki, et aussi peut-être nous faire une présentation des deux réalisatrices.
Ouais. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Bouchra, ça a d'abord été la rencontre avec le film dont on avait beaucoup entendu parler en festival. Il avait fait sa première à Toronto, il était passé au Fifib, ensuite à Belfort. Donc, il a une super carrière en festival. Il nous intriguait beaucoup, on avait vu quelques images. Et je l'ai personnellement découvert au festival Chéri Chéri, où il était en bonne place, où il a remporté le prix du jury. Et ça a été un coup de cœur absolu. Enfin, j'ai adoré l'énergie qu'il y avait. On se projette toujours en savant quelle va être la réception des spectateurs. Et là, je pouvais en avoir de première. Et en fait, tout le monde était en larmes dès les deux premières minutes du film. Enfin, il y a une intensité, il y a une énergie qui est incroyable et qui nous porte jusqu'au bout. Donc j'en ai ensuite parlé à Valentina, qui a fondé Norte et qui est la gérante de Norte, qu'il a vu ensuite, et on s'est dit ce film est pour nous, que ce soit dans son récit et dans sa forme, comme tu le disais, qui est extrêmement audacieuse. On s'est dit allons-y. Donc ça s'est d'abord fait via le vendeur, et ensuite on a rencontré en Zoom les réalisatrices qui sont basées à New York. Donc Oriane Barki, et c'est très intéressant parce que dans le film on sent toutes les influences, tous les horizons dont elles viennent. Donc Oriane Barki, c'est une cinéaste plutôt issue du documentaire, cinéaste et monteuse. Et Meriem Benani, c'est une artiste multimédia qui a aussi qui a sa carrière dans l'art contemporain. Et ensemble, elles avaient déjà réalisé une mini-série qui s'appelle Two Lizards, qui avait été diffusée pendant le confinement. Et Bouchra est leur premier long métrage.
Et d'ailleurs, on retrouve entre les deux projets cet aspect d'animaux qui sont un petit peu humanisés. Il y a une technique d'animation qui est quand même assez spécifique. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement là-dedans ?
Mais moi, j'adore très personnellement une animation qui est faite avec une toute petite équipe. En fait, Meriem et Oriane
On travaille le film à deux. Elles ont fait appel pour ce projet qui était un peu plus ambitieux, un peu plus important, à deux animateurs américains de culture sport qui sont je retrouve le nom, Jason Coombs et John Michael Collins de culture sport. Donc, ils ont collaboré ensemble et ça reste une toute petite équipe. Et la particularité de culture sport, c'est de travailler avec le logiciel Blender 3D. Qui est, je l'ai appris à cette occasion, qui est un logiciel open source. C'est vraiment la philosophie de ce studio-là, qui est un logiciel open source et qui leur permet, et qui pirate vraiment pour l'essorer, pour en exploiter toute la potentialité. Donc le film est un mélange de prise de vue réelle, d'animation 3D. Voilà, et elles ont une manière de travailler qui est très agile et que leur permet la taille du studio. Enfin, vraiment, ils sont très peu. Et donc, ça leur permet d'être très agile, d'écrire en même temps qu'elles montent. Alors que normalement, l'animation, on a l'habitude de recevoir des films qui nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup d'équipes très importantes. Et elles, venant sans doute du documentaire et en voulant déjà travailler de cette manière-là, ça les rendait beaucoup plus agiles et donc elles pouvaient très bien, en plus elles font aussi certaines des voix des personnages, à commencer par Myriam qui fait la voix de Bouchra, ça leur permettait de ne pas attendre de réserver un studio, d'avoir des process qui soient trop rigides, et donc l'écriture et montage se nourrissaient l'un l'autre, ce qui donne un résultat qui est vraiment très vif. Enfin, dans l'écriture, c'est vraiment très vif, et l'animation en elle-même, voilà, il y a un aspect lofi qui ajoute à l'émotion du film, et vraiment, le film est à fleur de peau, et je trouve que ce type d'animation qu'elle développe participe de la narration et de l'émotion qu'on ressent aussi.
Et je ne sais pas si elles vous ont parlé un peu de leur dispositif d'écriture, parce que c'est un peu une expérience d'une narration fleuve avec quand même plusieurs lieux, plusieurs arcs, des souvenirs qui remontent, etc. Est-ce que, oui, elles vous ont raconté comment elles ont travaillé? Je crois qu'il y a des enregistrements de la voix de la mère aussi qui ont été un sujet, etc.
Exactement, ouais. En fait, c'est le matériau documentaire et notamment les enregistrements de Myriam avec sa mère. C'est vraiment Myriam qui a apporté ce matériau très intime, très personnel. Et Oriane participe à l'écriture aussi. Elles le font vraiment ensemble. Et Oriane l'explique très bien. Elle dit que voilà, elle recevait un matériau très personnel, donc il fallait qu'elle trouve la juste distance dans l'écriture. Et je pense qu'elle aidait beaucoup Myriam aussi à prendre elle-même de la distance pour pouvoir travailler et pour pouvoir travailler une fiction. Parce que Bouchra reste une fiction avec un apport documentaire qui est très important et qui est évident. Ouais. Mais il restait à écrire une fiction. Ouais. Donc, elles ont vraiment collaboré toutes les deux sur l'écriture. Ouais.
Et comme on est, comme tu le dis, entre fiction, documentaire, animation, vous êtes distributeur du film. Comment vous pensez en fait un peu vous positionner pour l'accompagner dans sa sortie? Parce que c'est vrai que c'est un projet qui est assez, assez singulier.
Totalement. Et on adore ça. C'est le premier film d'animation qu'on distribue. Et on s'est... Alors, il y a plusieurs thématiques, évidemment. Il y a la réalité du Maroc, les questions d'identité queer aussi, de coming out. Et c'était assez clair dès le départ avec la réalisatrice. On en a parlé, c'est une des premières choses dont on a parlé. C'est vrai qu'on ne voulait pas saucissonner le film en fonction des thématiques et vraiment le mettre dans tel coin ou dans tel autre coin. Donc, on s'est dit le film est d'une telle richesse, d'une telle ouverture qu'on allait le laisser ouvert. Et la question qu'on s'est posée, c'est plutôt comment on arrive à toucher des publics avec des âges très différents. Parce que, comme le fait le film, en fait, vraiment, ce qu'on a envie de faire, c'est de jeter des ponts entre les générations, comme le fait très bien le film. Donc on s'est dit, pour les plus jeunes, ça va plutôt être sur les réseaux sociaux. Pour les vingtenaires, trentenaires, voilà, on a un dispositif média avec des médias assez prescripteurs qui nous accompagnent. Et je pense, pour un public encore un peu plus âgé, ça passera plutôt par la presse traditionnelle, voilà, les radios, la presse papier aussi. Donc voilà. Et ensuite, les thématiques, on travaille aussi avec des salles à l'année sur tous nos films qui nous font confiance. Et en fonction des thématiques, donc, on ne place pas innocemment le film le 3 juin, qui va lancer le mois des fiertés. Donc ça va vraiment être un film important. Il y a déjà des salles qui s'en emparent sous cet aspect-là. D'autres plutôt sur la question du Maroc, d'autres sur l'animation avec des médias spécialisés. Ouais, on laisse le choix aux salles de vraiment de s'emparer du film et on voulait le laisser le plus large possible et le plus ouvert possible. Ouais. Bah, c'est vraiment ce qu'on s'est dit en le découvrant, c'est qu'il s'adressait vraiment au plus grand nombre et assez largement. Et j'insiste vraiment là-dessus, à toutes les générations confondues.
À tout à l'heure, Pierre et Esther, et je mentionne aussi le travail superbe qu'ils ont fait, donc on le disait, autour des trois premiers longs-métrages de Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor, dont Cannibal, qui va à la rencontre d'Issei Sagawa, le Cannibal du Panthéon, fait divers de 1983, on y revient plus tard. Il y a quelques années, Junkhead avait marqué les esprits dans l'animation stop-motion, et François, ce mois-ci, avec Animotion, vous parle de sa suite 10 ans plus tard, passée par les festivals de Strasbourg et de Gérardmer, mais avant tout des grandes attentes animation de ce Cannes, et il y en a pas mal.
Animotion.
Et oui, Dorian, le Festival de Cannes vient donc de démarrer. Et moi, je vous propose de regarder de plus près quelques-uns des 11 films d'animation en sélection qui vont marquer les mois qui viennent, croyez-moi. Alors bon, impossible de ne pas commencer par Jim Quinn, tu l'évoquais tout à l'heure, Dorian, de Simon Balto et Brice Chevillard, en séance de minuit. On en parle depuis des semaines, nous, à la rédac, et Dorian s'en fera le plaisir de l'évoquer le mois prochain. Donc on y suit le combat de Jim, une star de la communauté LGBTQIA+, contre la maladie l'hétérose, celle qui transforme les gays en hétérosexuels. Berk. Pour continuer de se marrer, la CIT proposera Blaise de Jean-Paul Guigues et Dimitri Planchon. Une famille un peu naze qui, pour se faire aimer des autres, prépare une révolution par pure politesse. Ouais, c'est le synopsis de ce film porté par Léa Drucker. On rira donc, mais on sortira aussi les mouchoirs quand même, avec Le Corset de Louis Clichy, où l'on suit le quotidien de Christophe, 11 ans, obligé de porter un corset pour filer droit. Prêt à pleurer face à des personnages en lutte contre de vraies maladies, celle de l'Alzheimer avec Tangles de Liam Neeson, et avec l'ouverture de la semaine de la critique In Waves, on ralentira la mort à coups d'amour et de surf. Mais les films d'animation cannois sont aussi des promesses d'aventure et d'étrangeté, comme à la quinzaine des cinéastes qui en compte 3. On pourra découvrir Carmen, l'oiseau sauvage, l'histoire d'une jeune femme prête à se battre contre les dangers qui menacent Séville. Très très hâte de le découvrir, c'est le nouveau film de Sébastien Lodenbach, à qui l'on doit Linda veut du poulet, César du meilleur film d'animation 2024. Les aliens nous donnent également rendez-vous sur la croisette avec We Are Aliens de Koei Kadowaki, et Quentin Dupieux, comme on disait, présentera Le Vertige, son premier film en animation 3D, porté par Alain Chabat, Anaïs de Moustier et Jonathan Cohen. Rendez-vous donc le mois prochain pour parler de Jim Quinn. En attendant, moi je vous invite dans les salles pour découvrir dès cette semaine Junk World de Takahide Hori, en salle depuis ce mercredi. Le préquel de Junkhead nous embarque dans un film de SF en stop motion, complètement barré, où les quelques humains encore vivants vont affronter les cyborgs rebelles qui les menacent. Décalé et maîtrisé, le film n'a rien à envier au Mandalorian de Star Wars. Let's go!
Merci François, et donc on ne te quitte que quelques secondes puisque tu es un peu notre spécialiste de la musique ce mois-ci, et donc on te laisse pour ta première interlude musicale.
Et oui, les beaux jours reviennent, mais avec la fin des examens, les stages à alternance qui n'en finissent pas, votre patron qui vous gonfle, et je ne vous parle pas de l'actualité, je voulais vous proposer ce soir de vous faire du bien avec les interludes du jour. Aujourd'hui, j'avais aussi envie de rendre hommage à un grand musicien japonais qui nous a quittés il y a 3 ans. Expérimentateur libre, touche-à-tout perfectionniste, Ryuichi Sakamoto est l'un de ceux qui a signé les plus belles bandes originales de films. Ce passionné de musique est né dans les années 50 et il a été bercé aussi bien par les Beatles que Debussy. Ce que je trouve que ça résume plutôt bien sa carrière musicale. Il a tous les styles, de la techno-pop au classique en passant par le rap. Ce mélomane a également travaillé pour le cinéma avec les plus grands. Brian De Palma, Bertrand Bertolucci, David Bowie ou encore Alejandro González Iñárritu. Alors si vous le connaissez pas encore, je suis d'autant plus ravi de vous le faire découvrir aujourd'hui. Et on commence par une de ses plus connues, Merry Christmas Mr. Lawrence, tirée du film Furio de Nagisa Oshima, sorti en 83. Elle a offert à Sakamoto son premier BAFTA, et ainsi le début d'une reconnaissance mondiale. Elle marque aussi sa première collaboration avec David Bowie, ce qui est pas rien, qui joue dans le film. On écoute. Thank you.
sur Radio Campus Paris.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas accueilli notre très chère Lisa Templeroy avec Contre-champ. Elle jalonne tous les deux mois le cinéma décolonial à partir de films marquants. Et pour ce retour dans Moviegoer, elle souhaitait revenir sur les années 70 avec l'émergence d'un cinéma révolutionnaire palestinien.
Contre-champ, une tentative anticoloniale.
Et la dernière fois, on avait parlé de la création du manifeste « Vers un troisième cinéma » par les Argentins Gétino et Solanas. Et en fait, quasiment au même moment, en Palestine, trois personnes se rencontrent. Saloufa Jadala, Mustafa Abou Ali, Annie Jouaria. En 1948, ils ont vécu la Nakba, alors ils ont en tête la violence coloniale israélienne et savent que c'est le début d'une éradication non seulement des Palestiniens et des Palestiniennes, mais aussi de tout ce qui constitue leur identité et leur culture. C'est pour cette raison qu'ils décident de fonder l'unité du film palestinien au sein du Fatah et de mettre leur cinéma au service de la révolution. Ils se rendent sur place, caméra au point, pour filmer les opérations militaires sur le front de guerre avec les révolutionnaires armés. Ils filment aussi les entraînements des fédaïnes, des conférences, des manifestations, soit tout ce qui a trait à la révolution qui est en train de se faire. En 1973, ils écrivent à leur tour un manifeste qui est très intéressant à mettre en parallèle avec celui de Gétino et Solanas. On y retrouve l'importance de travailler à l'émergence d'une esthétique nouvelle. Le groupe insiste aussi sur la nécessité de renforcer les relations avec les groupes de cinéastes révolutionnaires et progressistes dans le monde entier, notamment en participant à des festivals de cinéma au nom de la Palestine. Si on devait retenir trois de leurs films, on pourrait citer « De toute mon âme et de tout mon sang », « Scène d'occupation à Gaza » ou encore « They do not exist ». Il y a, dans cette période, soit dans les années 60-70, une effervescence totale du cinéma décolonial et militant. Et avec ça, une vraie volonté de faire collectivement. On se met alors à penser le cinéma comme un outil politique. Un outil politique que l'on pense lui-même politiquement. Puisqu'il y a, à ce moment-là, une lutte anti-impérialiste forte en Palestine, de nombreux cinéastes venus du monde entier viennent pour filmer la résistance armée. Ces cinéastes se posent la question de savoir quel est le rôle du cinéma dans la conscientisation politique, quelle est l'efficacité politique réelle du cinéma comparée à la lutte armée qu'ils filment. Ces réflexions mèneront certains d'entre eux à abandonner le cinéma pour prendre les armes. D'autres continueront simplement de filmer. Et certains, comme Masao Adachi, font les deux. Malheureusement, toute cette activité révolutionnaire et une partie de ces interrogations seront brutalement stoppées par les événements de Septembre Noir. Des milliers de civils palestiniens sont tués dans les camps de réfugiés en Jordanie et toute l'organisation de libération pour la Palestine est repoussée au Liban. Le cinéma est soudain placé face à ses limites transformatrices, rattrapé par la violence des forces militaires sionistes. Il y a un reflux du cinéma militant international qui pousse notamment Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard à s'interroger dans le film « Ici et ailleurs » en 1976. Pour finir, nombreux sont les films palestiniens qui ont été volés ou détruits par l'armée israélienne. C'est pourquoi il est tellement important de conserver les archives que l'on possède encore à ce jour, afin de faire connaître et perdurer la mémoire de la lutte anticoloniale que n'ont cessé de mener Jadala, Abou Ali, Jouaria et le peuple palestinien.
Merci beaucoup Lisa, et donc je mentionne, parce qu'effectivement on est là aussi pour essayer de pousser nos auditeurs à voir les films, que le film donc They Do Not Exist est disponible gratuitement sur YouTube, donc profitez-en, foncez le découvrir et donc découvrir ce cinéma. Le mois dernier avec Toujours Plus Gore, nous avions le bonheur de vous proposer une vraie boucherie avec deux classiques et une salle quasi complète, et en bonus deux invités de choix. Le mois prochain ne réserve que de bonnes surprises autour du cas Issei Sagawa, le cannibale du Panthéon, fait divers de 1983 dont je vous parlais précédemment. Et donc en effet, jeudi 23 avril, dès 19h30, au Reflet Médicis, une très belle séance, une très belle salle quasi complète autour de deux classiques dans cette séance, une vraie boucherie. D'abord, Le sang des bêtes de Georges Franju, un documentaire édifiant sur les abattoirs de la Villette, réalisé en 1949, du même réalisateur que Les yeux sur le visage, et la voix off d'une neutralité clinique de Jean Painlevé, rappelant les processus d'abattage et les outils utilisés par les bourreaux. Le noir et blanc, on peut le dire, ne fait qu'intensifier par la mise en scène du cinéaste le gore et les images insoutenables des veaux se faisant tuer et gardant des gestes végétatifs. Après, et en compagnie du réalisateur Fabrice Duvels et la spécialiste de Sade et Pasolini Julie Paquette, un classique de Pasolini, Salo, ou Les 120 journées de Sodome, son dernier film qui a permis à la fois dans cette discussion de parler de beauté fasciste, de mise en scène, sans oublier l'historique du film et la mort du réalisateur, ainsi que les influences sadiennes évidentes. C'était donc l'occasion de discuter de cinéma, de gore et d'images violentes avec donc le réalisateur Fabrice Duvels, qui avait dédié un documentaire au réalisateur Pasolini, La Passion selon Bellatrice, la comédienne Béatrice Dalle, pardon, sur les traces en Italie du réalisateur controversé. Et donc je remercie Mathilde Costrois pour la technique et toutes les équipes du Reflet Médicis pour leur accueil. Moi, j'avais trois questions à te poser avant de préparer la séance pour Salo. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à Salo et à Pasolini en général?
Eh bien, c'est Salo. C'est le souffre. C'est Salo. Ouais, c'est le souffre du film. Ce qu'il y avait autour du film quand j'étais gamin, en fait, je l'ai découvert assez tôt et j'ai eu du mal à le voir. Mais bon, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose à creuser. Donc en fait, j'ai creusé, puis je suis arrivé, j'ai commencé par le début, en fait, des films de Pasolini. Puis après, ses poésies, puis sa vie, ses talents. Enfin, c'est un monde en soi, Pasolini. C'est un monde. Tu rentres en religion comme tu rentres en Pasolini.
Ok. Et est-ce que toi, quel est ton rapport en général au gore? On parle de toujours plus gore. Salo, pas forcément le film le plus gore qu'on projette, mais est-ce que toi, tu as un rapport dans ta cinéphilie, même donc dans ton expérience de réalisateur, qui t'amène au gore? Est-ce que tu considères à certains moments que tes films puisent dans le gore, puisent dans ces sous-genres en général?
Je vais parler de ma cinéphilie. Moi, je suis un gamin de la VHS, donc c'est sûr que le cinéma gore à l'époque, où il était vraiment, vraiment très, très ostracisé, pas du tout comme aujourd'hui. Oui. C'était un cinéma qu'on regardait avec les copains, beaucoup
caché.
C'est un cinéma qu'on avait du plaisir à voir en bande.
Bien sûr.
Et donc tu te constitues en fait une cinéphilie autour de ça. Et puis ma cinéphilie, bien sûr, moi je suis curieux un peu de tous les cinémas. Donc en fait, ça part de là. En fait.
Ça part de là.
Moi je viens de ce monde-là, je viens du monde de l'exploitation.
Des VHS.
Tout ce qui est attrait à René Château.
Qui existe encore, et qui font toujours de la VHS et du DVD.
Et comment ne pas revenir avec vous deux semaines avant la prochaine séance de Toujours Plus Gore sur un sujet édifiant que nous souhaitions forcément aborder, les faits divers. Objets de fascination, les vidéos YouTube et podcasts ont vent en poupe, et en particulier pour ne citer que On date raconte sur Europe 1 et Affaires sensibles sur France Inter avec Fabrice Drouel. Très vite dans la programmation, nous avons été attentifs au travail des anthropologues et réalisateurs Verena Paravel et Lucien Castanteilleur, soutenus par Norte Distribution. Après un film sur la pêche intensive, tourné tel un film d'horreur, Léviathan, la forme documentaire et pédagogique qu'ils abordent prend un tournant en 2022 avec une sélection à la quinzaine des réalisateurs de Cannes et leur De Humani Corporis Fabrica qui utilise la technique de l'endoscopie pour nous faire vivre et nous proposer une vraie virée dans le corps humain, césarienne, circoncision, etc. Et entre les deux, entre ces deux films, ce documentaire, celui qui nous a tout de suite parlé, Cannibal, réalisé en 2017, ce documentaire fou prend comme origine un fait divers bien connu à Paris dans les années 80, le Cannibal du Panthéon, une affaire précisément de 1981. L'histoire de cet étudiant japonais venu en France à la Sorbonne pour étudier les lettres et qui est né en 1949. Donc le jeune Sagawa est plus vieux de 10 ans des autres étudiants. Il commence à nourrir une fascination qui aura les répercussions que l'on connaît pour une autre étudiante de la promo, René Hartevelt, d'origine néerlandaise. En effet, sous prétexte d'un devoir, il propose à René Hartevelt de venir réviser et lire des poèmes expressionnistes allemands. Comme vous le savez, rien ne va se passer comme prévu. René lit un poème, Sagawa la tue d'une balle, la viole, il révèle certaines parties du corps de sa victime, il les consomme crues, cuits ou les met dans un réfrigérateur. Mais ce cher Issei, Sagawa, n'a pas de congélateur. Il doit donc se débarrasser du corps de René Hartevelt et le met dans deux valises, les met dans un taxi, les dépose dans un chariot au bois de Boulogne. Et comme tout ça doit être un peu comme un burlesque, Sagawa perd le contrôle du chariot, les valises tombent devant un couple. Et évidemment, du sang en sort, il s'éloigne le plus vite des valises. Sans grand étonnement, évidemment, le tueur est vite retrouvé grâce au témoignage du chauffeur de taxi, dont je vous parlais des valises avant, et Sagawa considère devant les policiers qu'il agit, selon lui, c'est pour lui en fait un acte artistique. Pendant un an, il est soumis à une expertise médicale et psychiatrique, tout en étant en détention provisoire. C'est là que l'autrice Nicole Calgaris intervient. C'est l'une des étudiantes de la promotion de Issei Sagawa. Il commence à échanger des lettres, dont nous reparlerons lors de la séance du jeudi 28 mai, en présence de l'autrice. La suite est tout aussi édifiante. Le cannibal du Panthéon est jugé irresponsable pénalement par les experts en psychiatrie. Un non-lieu est prononcé. Sagawa est interné pendant environ un an avant que ses parents, au Japon, le placent en hôpital psychiatrique. Dans ce cas précis, après un non-lieu prononcé, le Japon n'a pas le droit de se prononcer selon le droit international. Il n'est donc évidemment pas responsable de ses actes, comme l'a précisé la justice française. Après avoir été professeur pendant quelques années et que les autorités fassent le lien, Sagawa va éditer plusieurs ouvrages, sans succès. Et les années passant, va se retirer de la vie publique. Malade, il vit avec son frère dans un petit appartement de Tokyo. Verena Paravel et Lucien Castanteilleur, pour leur deuxième film, sont allés à sa découverte en 2017. Il avait 68 ans. Sagawa meurt en 2022 d'une maladie des poumons. Ce documentaire, donc pour moi, l'un des plus importants et concrets sur un tueur, un vrai tueur, tueur sans psychologisation. On en parlera lors de cette séance et donc on vous donne rendez-vous le jeudi 28 mai au Majestic Bastille dès 20h autour de Caniba de Verena Paravel et Lucien Castantailleur, un documentaire édifiant. Le film sera suivi d'une discussion en présence de l'animateur et journaliste Fabrice Drouel autour de la narration des faits divers et évidemment les précautions à prendre sur le plan médiatique, et donc l'autrice Nicole Caligares qui en 2013 a publié Le paradis entre les jambes chez Gallimard, où elle raconte sa filiation avec Issei Sagawa, sa relation avec les hommes en général et cette figure importante dans sa vie, les lettres qu'elle a échangées avec le tueur. Une vente et dédicace de ce livre et son dernier ouvrage Le Gogol sera organisée à l'issue de la discussion au Majestic Bastille. Évidemment, le mois prochain, je vous reparlerai de notre saison, notre fin de saison, notre dernier numéro de Toujours Plus Gore. On sera avec une petite pépite expérimentale le vendredi 26 juin. Mais, entre-temps, il est l'heure de la deuxième interlude musicale de François.
Movie Goer sur Radio Campus Paris.
En parallèle de la musique de film qu'il composait, Ryuichi Sakamoto continuait régulièrement à sortir des albums et des singles. Il publie l'album 1996, cette même année, dans lequel figurent plusieurs titres déjà sortis dans des films, tels que la BO qu'il a signée pour Le Dernier Empereur. Mais dans cet album, il propose un titre encore jamais sorti, Bibo no Aozora, un morceau au piano et violon à la fois grave et émouvant. Ce morceau tombe dans les oreilles de beaucoup de gens, et notamment celle du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu. C'est un coup de cœur et il rachètera les droits 10 ans plus tard à Sakamoto pour son film Babel. Le film alterne des personnages dans différents endroits du monde. Leurs vies n'ont rien à voir et pourtant, un événement va tous les faire basculer dans une trajectoire tragique et douloureuse. Le film marquera le début de leur collaboration. On écoute.
Retour dans Movie Goer pour la suite de notre émission spéciale Cannes. Il y a toujours quelques sacrifiés présentés en sélection qui sortent plus d'un an après leur passage en Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur. C'est le cas de The Plague de Charlie Pollinger, présenté au Certains Regards 2025, un de mes coups de cœur passé inaperçu et qui sort chez Original Factory le 3 juin.
The Plague est la première réalisation de Charlie Pollinger avec laquelle il s'est offert une sélection à Cannes l'an dernier. Ce thriller psychologique suit Ben, un garçon de 12 ans qui arrive dans un camp de waterpolo pour passer l'été. Très vite, il découvre la dynamique particulière du groupe et remarque qu'un jeune, Eli, est mis à l'écart en raison de son comportement atypique. Les autres adolescents lui imposent alors une étrange tradition, à la fois ludique et inquiétante, désigner l'un d'entre eux comme porteur d'une mystérieuse maladie qu'ils appellent la peste, donc The Plague. Mais au fil des jours, ce jeu prend une tournure de plus en plus troublante. La frontière entre fiction et réalité se brouille et Ben commence à douter. Et si cette coutume cachait... cachait quelque chose de plus sombre qu'un rite d'intégration ? Et je retourne cette question vers nos chroniqueurs afin qu'ils puissent discuter du film.
Alors, moi, du coup, je suis pas du tout neutre. J'avais vu le film il y a un an. J'ai pas le regard. Je suis assez curieux de quoi, d'avoir l'avis de Lisa, de François et de toi, parce que j'ai vu le film il y a un an. Et en fait, c'est aussi ce truc de quand tu vois des films à Cannes, de genre notamment, t'as ce truc où moi, ça passe ou ça casse un peu, souvent. Et là, j'ai tellement aimé ce film. Et tu disais un truc en off qui était hyper intéressant avant, c'était que c'est à hauteur d'enfant. Et je trouve qu'en fait, le film est hyper badant sur un sujet qu'on a déjà vu traité, qui est super badant. Et j'ai trouvé que le cadre du cours de waterpolo d'été, qui pourrait être vraiment le truc d'un coming of age classique, se détruit et s'étiole au fur et à mesure. Au début, j'ai refusé le film. J'étais en mode, putain, en fait, je ne peux pas croire à ça. Je trouve ça hyper ridicule. Too much. Et en fait, ça me prend, en fait. Ouais. Les lieux en fait, c'est surtout la gestion des lieux, l'échelle de plan qui est tout le temps en constant. Je sais pas, je me sens un peu guindé, en fait, dans ce truc-là. Je me sens pas bien quand je vois ce film-là. Et d'un autre côté, ouais, je trouve ça assez génial comme premier film.
Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est assez génial comme premier film. Moi, ça m'a fait penser un peu au camp d'été des Disney Channel Kids.
Ah, bah, grave.
et des Nickelodeon Kids qui étaient. Enfin, désigné et introduit dans une piscine, donc c'était assez. Enfin, c'est assez glaçant de se dire que c'est la réalité. Et comme je te disais en off, en fait, c'est trop bien que ce soit un thriller parce que ça permet aussi de montrer la gravité d'un harcèlement, typiquement. Mmh. Surtout filmé à hauteur d'enfant. Je trouve que en plus dans le film, les adultes réagissent hyper bien à ça. Au début, moi, j'étais un peu troublée parce que j'étais en mode, ok, ils nous emmènent où ce film-là, qu'est-ce qu'on fout. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on suit un peu. Les dilemmes que vit Ben, de se dire est-ce que je m'intègre ou est-ce que je vais vers Eli qui devient mon ami, et est-ce que en fait je garde intégré ce truc de la société de ouais, il est bizarre et il faut qu'il se cantonne à la normalité, ou est-ce que je suis dans le truc. Et je trouve que tous ces questionnements, tu le suis et tu te dis on va où, est-ce qu'il va faire les bons choix ou quoi, et je trouve que c'était hyper intéressant. Franchement, j'ai bien aimé le film. Et comme tu l'as dit, à hauteur d'enfant, c'est trop bien.
Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les deux loustiques, là?
Je me demande. Hein.
Lisa?
Ouais, moi, j'ai été vachement surprise. Ouais, comme toi, je me suis laissée porter. Enfin, justement, que ça commence, on voit des ados, on se dit, il va y avoir tout le côté, justement, comme Evil of Age, un peu plus les histoires d'adolescents et tout. Et en fait, ça t'enferme dans une bulle. Ça, je trouve que le film installe vachement bien une ambiance que tu disais un peu oppressante et tout. Grave. Et même tous ces plans d'ambiance, et ça tourne toujours autour de ce. J'ai vraiment cette sensation de huis clos, de on est enfermé dans la piscine tout le temps. Mmh. Ils dorment dans des dortoirs tous ensemble. Il est jamais tout seul. Vrai. Il est tout le temps avec ce groupe. Mmh. Et il y a vraiment ce truc de t'es piégé. Enfin, tu te sens complètement piégé à la fois du coup dans ce lieu, mais dans cette adolescence, dans ce groupe, dans qui tu es à ce moment-là. Enfin, les questionnements de Ben à ce moment-là. Et du coup, ça m'a vachement emporté.
Ouais, moi je trouve aussi le son, il est vachement.
Le son. Ah oui, le son
de
fou.
Enfin, la musique, le son, même tu sens les différences dans l'eau et en dehors.
Oui.
Mais je me demande ce que François en a
pensé. François Iliès Gaboret.
Mais moi j'ai trouvé ça tellement bien maîtrisé. En fait, je trouve que dès le début, moi j'ai tout de suite adhéré, quoi. C'est-à-dire que toutes les scènes de thriller, on est dedans. Et par rapport à ce que tu disais, Lisa, par rapport à la bulle, je trouve que la présence et absence des adultes, elle est aussi, enfin, elle joue avec cette bulle là, c'est à dire qu'ils réagissent bien, mais en fait très vite le personnage il se fait renfermer dans ce monde là et je trouve aussi que le jeu de tous les gamins, mais de tous, c'est tellement bien, quoi.
Mais ouais, mais moi j'avais l'impression de revenir au collège, tu
mais
vois.
Moi aussi je me dis putain, mais genre c'est vraiment le monde que je, parce que avec la nostalgie on peut des fois dire que c'est, enfin, c'était bien avant et tout, mais en fait ça, je me suis dit mais non, en fait le collège, tu vois, c'est quand t'as 13 ans, c'est horrible. Et en fait je trouve que les acteurs, notamment le petit
Jake,
le leader,
t'as envie de
lui
donner des claques,
t'as envie de le claquer. Et je trouve qu'il l'acteur en fait, et aussi beaucoup de choses passent par les regards, c'est à dire qu'avant même qu'ils disent quelque chose, il y a les regards excluent ou interrogent le personnage principal, qui lui, je trouve qu'il se démène en plus, c'est à dire qu'il va pas foncer dans le truc de je vais suivre le groupe, il reste quand même un peu il a son libre arbitre,
il est un peu en marge.
Il accepte cette marge là, même si du coup il se rend un peu compte après des conséquences que ça a et que ça le questionne, mais pour autant il a conscience de sa marge et il est pas trop là dedans
et puis je trouve qu'il se questionne pas lui-même, en fait c'est les autres qui le font questionner de ça.
En fait moi je trouve qu'il s'est manipulé, quoi. Enfin il y a
totalement
de Jake, tu sais pas s'il a envie de lui plaire ou qu'il le déteste,
et puis le fait que genre dans une des scènes où il est au restaurant parce qu'il appelle sa mère parce qu'il est pas bien, et que ensuite Jake se fait convoquer et qu'après il dit mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Eli, je suis en mode mec, en fait là c'était ta seule porte de sortie, tu veux pas en sortir, débrouillard. Et je pense aussi c'est aussi un truc très américain c'est des trucs qui se passent qu'aux États-Unis, d'avoir des camps d'été un peu intensifs, qu'il n'y a pas en
France.
Et
ça joue pas mal.
Et je trouve que ça. Même à un moment, je me suis dit, il va y avoir une tuerie de masse, en fait, c'est pas possible autrement.
C'est le drama, là.
Pardon.
Mais moi, je suis sur ce truc, c'est marrant que vous disiez que les adultes réagissent bien, parce que moi, j'ai eu l'impression inverse, j'étais en mode, mais que quelqu'un fasse quelque chose. Et je me disais, ils ont l'empathie, enfin, le coach, il voit qu'il y a un truc. Mais je disais, mais comment il ne voit rien, quoi. Enfin, il se boule devant lui. Je me disais,
c'est bien camouflé
aussi. Oui, c'est compliqué. Quand t'es en train de gérer des enfants, t'as d'autres trucs à penser et tout machin. Mais justement, moi, ça m'a plutôt questionnée aussi sur comment on gère le harcèlement. Et il y a beaucoup de choses à faire et de justement ce truc de c'est p- et faire comprendre justement que c'est pas de sa responsabilité.
Oui, c'est ça.
Aussi ça. Il est vraiment tout seul. Enfin, j'étais en mode, ils sont tout seuls. Il essaye de lui parler et justement, on voit ce truc de le coach qui est empathique et qui essaye de trouver un point. Mais les conseils qu'il lui donne, c'est un peu laisse couler et un jour ça ira mieux. Lui, il l'aide pas du tout. C'est aussi tout ce truc de comment, qu'est-ce qu'on peut faire et tout.
Ouais, mais c'est parce que c'est une réaction différente. En fait, la réaction qu'il a, elle est différente de d'autres films. C'est pour ça que je trouvais ça. Je trouvais qu'il avait une bonne réaction, mais c'est pas une bonne réaction parce que machin. Et je pense aussi que c'est peut-être la première fois qu'il est alerté par ce genre de problème aussi, tu vois.
Oui, oui, c'est clair.
Parce que
bien sûr.
Parce que quand Ben arrive, c'est la, c'est sa première année. Voilà. Pardon. Allez voir le film, c'est super.
Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça cristallise encore une fois beaucoup de bonnes choses. Et là, en plus, il y a un débat qui s'ouvrait sur justement comment gérer le harcèlement. Et je trouve que le film, pour le coup, apporte une réponse un peu différente de certains films qu'on peut voir. Donc, en tout cas, le film sort. Il a été Grand Prix d'ailleurs au Festival de Deauville. Il sort le 3 juin et on prêche toujours sa paroisse. Il sort au Majestic Bastille avec Original Factory. Et donc, je vais forcément saluer notre superbe programmatrice de ce film, Marie Demar, et qui va donc forcément trouver les meilleures salles, dont à Bastille. Foncez le voir. Et je suis absolument sûr qu'on reparlera de ce réalisateur. Mais il est l'heure de retrouver Pierre Commarmont de Norte Distribution pour nous parler de cette superbe société au film atypique et qui marque résolument les esprits, dont Bouchera, on l'a dit, également en salle dès le 3 juin.
Moviegoer sur Radio Campus Paris.
Drama is life with the dull bits cut out.
Bah, on souhaite une très belle sortie au film, donc le 3 juin, n'est-ce pas, 2026, que le spectateur s'en empare comme tu nous le disais. Tu me disais hors antenne que tu avais envie de nous parler d'un autre projet que Norte va distribuer cette fois-ci en juillet, que je ne me trompe pas, le 8 juillet, c'est Dry Leaf, qui a été réalisé par Alexandre Koberitz. Alors ça reste très mystérieux encore pour moi à ce stade, donc est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce projet-ci ?
Oui, bah c'est une autre curiosité qu'on a découverte. Alexandre Koberitz, c'est son troisième film. Il avait été découvert en France avec son précédent qui est Sous le ciel de Koutaïssi, qui avait eu le Grand Prix au Festival d'Angers en 2022, qui était sorti dans la foulée. C'est vraiment un auteur à suivre. Il a une quarantaine d'années, c'est un cinéaste géorgien. Et Dry Leaf est son troisième film. Et la particularité, c'est qu'il est tourné avec un Sony Ericsson de 2017. Un modèle de 2007.
Oui, d'accord, vraiment, on y va sur une caméra qui a vécu.
Qui a vécu, et pour les nostalgiques des années 2000, ouais, les images sont vraiment incroyables, et c'est un film fleuve de plus de 3 heures qui raconte l'épopée d'un père à travers la Géorgie à la recherche de sa fille, qui a volontairement disparu, qui a demandé à ce qu'on ne la recherche pas, mais son père y va quand même avec un de ses collègues, et sa fille est une photographe qui avait pour projet de photographier des terrains de foot en Géorgie et de sillonner comme ça le pays de terrain de foot en terrain de foot. Et donc lui, il a la liste des terrains de foot, donc il se rend à chacun de ces terrains de foot. Et c'est vraiment dans le récit, l'image plastiquement est absolument sublime. Enfin, chaque plan est un événement. Ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment un film sur ce qu'est le regard d'un cinéaste avec un médium a priori comment le dire, un peu ridicule, ouais, un petit téléphone comme ça, très trivial. Il arrive à faire un film absolument incroyable. Et la forme pourrait être intimidante, mais et la longueur aussi. Mais c'est un film profondément généreux, mais à la fois dans son image. Encore une fois, ouais, je me lasse pas de reposer les yeux dessus. J'ai hâte de le revoir en salle. Ça va vraiment être incroyable. Et même en termes de récit. Là aussi, c'est un film extrêmement ouvert, extrêmement riche. Vive Koberitz, quoi.
Et ce film-là, en tant que distributeur, comment vous en avez fait la rencontre ? Vous l'avez vu en festival aussi ? Ou c'était...
On l'a repéré. Il était à Locarno. Et en fait, c'est une réalisatrice, Maureen Fazendero, que Norte et que Valentina a produit et dont on a distribué le dernier film, Les Saisons, qui est sorti le 25 mars dernier, qui nous a dit qu'il avait vu, elle, à Locarno, et nous a dit il faut absolument que vous voyez ce film, c'est incroyable. Et on l'a repéré comme ça, on l'avait déjà repéré dans la liste de Locarno, on l'a découvert et ça a été un coup de cœur aussi absolu. On tenait à le porter en salle aussi et on est super fiers de le faire.
Et je termine, parce que je vois que le temps tourne, sur Caniba, parce que sinon Dorian va s'énerver, qui va passer le jeudi 28 mai au Majestic Bastille, donc dans le cadre du Ciné-Club Toujours Plus Gore. Donc là, c'est plus un film de votre catalogue, c'est ça qu'on va ressortir dans ce cadre-là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ?
Oui, bah, un film emblématique et emblématique du travail de Norte, du travail de Valentina, d'abord en tant que productrice, parce qu'elle a produit la grande majorité, et là je ne veux pas dire de bêtises, sinon la totalité des films de Lucien Castan-Taylor et Verena Paravel. Et donc Caniba ne fait pas exception, c'est une production Norte qui était sortie en 2018. Et moi, j'étais pas chez Norte à ce moment-là, mais j'avais vu le film et les films de Castan-Taylor et Verena Paravel me sont très chers. Quand je les ai découverts, ça m'a provoqué vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et ils sont formellement incroyables. Et c'est aussi comme ça que j'ai repéré Norte et que je me suis dit qu'un jour, peut-être, j'aimerais beaucoup y travailler. Donc c'est,
ben voilà.
C'était, et Caniba, oui, c'est la rencontre des deux réalisateurs avec Issei Sagawa, qui est tristement célèbre pour ce fait divers qui a eu lieu en France, où il avait dévoré une camarade d'université. Et donc, avec le film, on découvre de manière assez terrifiante qu'il continue à vivre de ce fait divers. Et donc, c'est à la fois une réflexion sur quelque chose d'indicible, peut-être un des tabous humain le plus terrible, le plus puissant, et en même temps Lucien et Verena sont aussi des anthropologues, donc ils circonscrivent leur sujet de cette manière-là aussi, et donc c'est aussi une réflexion sur ce qu'est le cannibalisme dans la société, une réflexion sur la société japonaise aussi et sur la manière dont Sagawa a continué à vivre après, parce qu'il a été emprisonné brièvement, je crois, en France, avant de retourner, avant d'être extradé au Japon et de continuer à vivre librement au Japon.
Merci beaucoup, Pierre, d'être venu pour nous raconter tout ça dans cette émission. Et je passe tout de suite le micro à François pour sa troisième interlude musicale.
Ryuichi Sakamoto a une vaste carrière. Dans les années 2010, cet accro au travail doit malheureusement ralentir la cadence à cause de son cancer. Installé à New York, Sakamoto repart vivre au Japon en 2020 pour finir sa vie. Malgré la maladie, il continue de travailler. Le réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, dont je vous parlais tout à l'heure, l'appelle pour lui confier la composition de son prochain film, Monster, un thriller sur l'amitié et l'amour entre deux écoliers. Le film fera sa première mondiale à Cannes en mai 2023. Malheureusement, sans son compositeur. Ryuichi Sakamoto s'est éteint 2 mois avant. Koreeda lui dédiera alors son film. Voici alors l'un des derniers titres composés par Ryuichi Sakamoto. À quoi ?
nous sommes de retour donc pour cette dernière partie de Movie Goer sur Radio Campus Paris. Et une dernière fois, cette saison, Esther nous parle de documentaire et de fiction autour d'un formidable moyen-métrage de Claire Simon, Récréation, réalisé en 1998 et disponible sur France.tv. Je fais la petite pub, la plateforme gratuite du service public.
Le cinéma doit partir du vrai et arriver au vrai.
Oui, cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un documentaire de Claire Simon à l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée sur France TV, en l'occurrence de Récréation, qui a été tourné au début des années 90, donc 30 ans avant Notre Corps, dont vous avez peut-être entendu parler plus récemment. Claire Simon, elle s'est formée au cinéma direct, donc une forme qui prône la non-intervention du documentariste, l'enregistrement synchrone entre le son et l'image, l'absence de musique et de commentaires. Donc ici, comme l'indique le titre, elle pose sa caméra dans la cour de récré d'une école maternelle et elle se fait discrète au point que les enfants semblent oublier complètement sa présence. Et son sujet, c'est donc ce lieu, la récréation, qui, quand on y réfléchit, est l'un des seuls où les enfants sont enfin libérés du regard et des cadres que posent les adultes. Claire Simon a toujours dit être très intéressée par les formes romanesques qui peuplent la vie quotidienne, les fictions dans la non-fiction, si je dois le dire de manière pompeuse. Donc quoi de mieux que cette réalité alternative par laquelle nous sommes tous passés, qu'est la cour de récré ? Simon appréhende ce lieu comme une scène de théâtre miniature. Toutes les scènes sont délimitées par le retentissement des deux sonneries et nous naviguons à travers les mises en scène des petits compteurs successifs sur lesquels s'attarde la caméra. Les bandits, les cow-boys, les mariages, la cour s'avère être une véritable topographie des émotions humaines. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la manière dont sont en train de se consolider dès cet âge-là toutes les dynamiques sociales et psychologiques qui régissent les relations adultes. L'enjeu majeur dans la cour, c'est d'ores et déjà d'être le leader. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cet heureux destin, il s'agit dès lors de faire allégeance au dominant autoproclamé le plus vite possible. Les petits chefs s'établissent dans des rapports sociaux, autrement dit, leur domination implique que d'autres leur obéissent ou bien leur soient soumis. Il y a notamment un segment qui est vraiment difficile, où en quelques minutes, un petit garçon se fait traîner par terre et l'on voit immédiatement tous ceux qui gravitaient impassibles autour se joindre plutôt aux harceleurs qu'aux harcelés pour éviter de devenir eux-mêmes la partie faible. On sonde aussi dans le film ce qu'analyse la sociologue Isabelle Claire, c'est-à-dire qu'à l'école, le genre est partout. Les garçons sont plus autocentrés et dans une forme de confrontation permanente et les filles, elles, adoptent très tôt des attitudes de soins et de médiation. Il n'y a qu'à voir le contraste entre la scène de harcèlement que je décrivais et la scène finale que choisit Simon, où ce sont des petites filles qui soutiennent tant bien que mal la jeune Nathalie, terrifiée de sauter du haut d'un banc. Et enfin, je trouve qu'on décèle dans cette cour de récré des proto-rapports économiques, des enfants qui accumulent des branchages dans leur coin, selon un idéal de la propriété privée qui ferait plaisir aux équipes d'admission d'HEC, et d'autres qui vont chercher à destituer les petits pactages individuels. L'international commence dans la cour de récré. Mais je voulais enfin aussi restituer ce que ce film comporte de plus intime, de plus mélancolique, parce qu'en le regardant, j'ai aussi trouvé qu'il propose à son spectateur une vraie expérience incarnée du passage du temps. Récréation nous confronte à ce que nous avons été et ce que nous ne sommes plus, à la maladresse de ces petits êtres qui n'ont pas très bien intériorisé la civilisation des mœurs, qui apprennent tant bien que mal à habiter leur corps, eux qui tombent, qui hurlent, qui pleurent, qui courent et se remettent bizarrement les cheveux sans aucun surmoi. Regarder Récréation, c'est aussi faire l'expérience, justement, de ne pas les suranalyser tout le temps et de se demander si on peut encore, le temps d'un plan, redevenir un enfant, être absorbé comme eux par une tour de branche ou par une course de crachat et par toutes ces petites fictions du monde qui s'inventent et qui s'expérimentent à une vitesse phénoménale. La force de sa mise en scène, à Claire Simon, c'est donc qu'elle ne vise pas à faire de la cour le seul miroir de la société adulte, mais aussi qu'elle regarde simplement des enfants qui jouent dans toute leur bizarrerie et leur innocence.
Movie Goer sur Radio Campus Paris.
Merci beaucoup Esther, donc je le rappelle, Récréation, c'est dispo gratos sur France.tv, il y a tout un catalogue incroyable de films, je le dis gratos maintenant, il n'y a vraiment plus de limites au mois de mai, et évidemment ça vous évitera d'aller voir une série un peu trop controversée, Euphoria, qui est disponible sur HBO Max, avec un épisode par semaine, et toujours le travail de Petra Collins, qui a bien été pompé par Sam Levinson. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire encore une suite à cette série, et est-ce qu'on peut se poser encore la question d'un produit marketing ? Alia nous en parle dans The Vamps Wear Fashion.
Give me a fucking Blonix.
These guys weren't just after money anymore.
Strike the pose.
They were after fashion.
Merci Dorian et bienvenue dans The Vamps Wear Fashion, la chronique qui met le cinéma sur le divan. Aujourd'hui, j'ai une devinette pour vous. Qui s'approprie les récits des femmes pour les transformer en fantasmes mal digérés, mal écrits et franchement gênants?
Sam Levinson.
Bingo! Aujourd'hui, on parle de la série polémique Euphoria. Et oui, elle est revenue après 4 ans d'absence et franchement, personne n'a commandé ce comeback. C'est un peu comme un ex-toxique qui débarque sans prévenir, on s'en passerait très bien. Et je vous le dis tout de suite, pour vous, je me suis infligé les trois premiers épisodes, oui, trois heures de ma vie, histoire de démonter méthodiquement les obsessions douteuses de Sabine Vincent. Je l'ai fait, vous n'avez pas à le faire.
Merci
à vous. Mais je vous en prie. Mais aujourd'hui, pas de gossip, on parle mode et féminisme. Parce que ce retour, c'est aussi une trahison esthétique. Où est passé l'ADN visuel posé par Petra Collins ? Les paillettes ont disparu, remplacées par des looks qui crient fast fashion sans âme et une direction artistique qui semble avoir abandonné toute ambition. Et dans l'écriture, alors, parlons-en. Ou plutôt non, évitons, c'est vide, c'est creux et surtout, c'est profondément problématique.
Tu vas un petit peu fort aujourd'hui, non ?
Ah non, 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 c'est nécessaire, parce qu'on est en face d'un cas d'école de male gaze, des personnages féminins hypersexualisés, mal construits, constamment humiliés ou réduits à des archétypes incassis. Ainsi, ce ne sont pas des femmes, mais des projections, et des projections pas très subtiles. On frôle la misogynie crasse, emballée dans une esthétique pseudo-arty, une vision qui sent le puritanisme recyclé, version glamour toxique, où la complexité féminine est écrasée au profit du spectacle. Alors oui, heureusement que Maddy et Roux tiennent encore debout au milieu du naufrage. Heureusement que certaines actrices arrivent à insuffler un peu de vérité dans ce chaos. Mais cela ne suffit pas à sauver un projet qui semble avoir oublié ce qu'était une femme, un regard féminin et une narration incarnée. Quand une série transforme ses personnages féminins en terrain de jeu pour fantasmes masculins, ce n'est plus de la fiction, c'est une démonstration de pouvoir. Et franchement, on a déjà donné. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, enfin pas trop, je ne vous recommande pas cette série, je vous conseille même de l'éviter. Courez, je vous en supplie, courez. Je vais conclure simplement, j'espère sincèrement que cette saison sera la dernière pour le bonheur de Zendaya et pour le nôtre.
Merci beaucoup Alia, je ne regarderai donc pas. Et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour ce 9e épisode. On se retrouve toutes les 4 semaines, le vendredi à 19h et en rediffusion le lundi à 13h pour Movie Goer, l'émission qui décrypte le cinéma et plus encore sous toutes ses coutures. Merci à Philippe Fischer, chargé d'antenne. Merci à Léa, notre réalisatrice. Merci à notre invité Pierre Comarmon, venu nous parler de Bouchra, Doran Barki et Myriam Benani en salle dès le 3 juin et tout son formidable travail chez Norte Distribution. Et merci à toute l'équipe des chroniqueurs et chroniqueuses, Lisa Templerot, François-Elias Gaboret, Alia Mamdan, moi-même Esther Vasseur et notre illustre présentateur Dorian Périgois. Et en attendant le retour de Movie Goer le vendredi 13 juin pour sa dernière de la saison, n'oubliez pas, l'art ne se vit pas seulement, il s'écoute.
Ça fait bizarre que je l'ai dit, hein. Merci beaucoup, merci à tous.